En ce 14 février, tout le monde parle de la Saint-Valentin. J'ai l'impression que c'est à peu près le seul saint dont on connaisse le nom et la date, le 14 février. C'est vrai, il y a Saint-Jean-Baptiste le 24 juin. Tout ça est très étrange, bien étrange, Saint-Valentin. Mais pour la Saint-Valentin, au lieu de parler de Saint-Valentin, j'ai choisi de parler de Jacques Rivière. C'est une histoire d'amour fantastique, mais c'est beaucoup plus intéressant que la vie de ce pauvre Saint-Valentin. Selon la légende, une légende dorée d'ailleurs, était un prêtre, ou un prêtre assez savant et charitable, mais l'empereur Claude, le deuxième Claude, à Rome, a voulu le faire abjurer. Il a refusé, il a été confié à la garde d'un officier dont il a reguéri la fille aveugle, il aurait converti toute la maison, puis alors il a été décapité. Sur l'ordre de l'empereur, aux environs de l'an 270, je sais pas si on a choisi Saint-Valentin parce qu'il a perdu la tête, je voudrais pas me moquer d'un pauvre saint qui s'est fait décapiter. Mais l'amour fait perdre la tête, paraît-il, et justement Jacques Rivière, qui a vécu au début de ce siècle, il est né en 1886, si je me souviens bien, c'est l'année de la conversion de Claudel, ça. Paul Claudel, et c'est Paul Claudel qui a amené Jacques Rivière à la foi. Donc, il est né le 15 juillet 1886, puis il est mort à Paris le 14 février, oui, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1925. Ceux qui pourraient se demander pourquoi je le choisis, bien que qu'il me suffise de lire un texte intitulé, un extrait d'un texte intitulé « Notre Église est l'Église des Saints ». Et c'est un texte du cardinal Roger Etchegaray, ou d'autres prononcent Etchegaray, mais on m'a dit que c'était Etchegaray. C'est un Français. Et il dit, il nous faut écarter la conception élitiste de la sainteté. En somme, la sainteté, c'est pas rien que pour quelques rares personnes. Et le cardinal continue en disant, elle n'est pas réservée à des privilégiés, à des héros, à des moines, à des cloîtrés. D'ailleurs, le chapitre 5 de la constitution conciliaire Lumen Gentium est intitulé tout bonnement, écoutez bien, ça c'est bien important, c'est les pères du concile qui ont intitulé ça comme ça, l'appel universel à la sainteté dans l'Église. Et le cardinal continue en ajoutant, il va parler de Jacques Rivière, mais on comprend que cet appel fasse peur même à des convertis tout transparents, parents à la grâce divine comme Jacques Rivière. Dans son journal de captivité, parce qu'il a été capturé durant la guerre 14-18, lui. Dans son journal de captivité, il écrit, et ça c'est vraiment ce qu'on ressent tous, hein, peur de l'abîme, peur de cet enchaînement terrible d'exigences, où l'on tombe dès que l'on consent à Dieu. Mon Dieu, éloignez-moi de la tentation de la sainteté. Je ne suis pas fait pour ça. Ne confondez pas. Je ne suis pas de l'espèce qu'il faut. Je suis marié et père. Contentez-vous d'une vie pure et patiente, mon Dieu, que je ferai tous mes efforts pour vous donner. C'est dans son très beau livre que sa sœur Isabelle Rivière, la sœur d'Alain Fournier, a publié sous le titre « À la trace de Dieu ». À la trace de Dieu, je m'étais acheté ça quelques mois avant d'entrer au monastère en 1944, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné. Ça a été un des éléments pour me décider à rentrer au monastère. Ça. À la trace de Dieu, je ne saurais trop vous recommander ce livre. Se lit facilement, puisque c'est une série de tout petites notes, de petites réflexions, souvent assez brèves, parfois quelques pages. Et c'est des écrits que sa sœur a colligés, si on peut dire. Je vous en lis un bref extrait, mettons à la page 217. Encore une fois, les délices de l'amour de Dieu, que c'est doux. Je comprends maintenant Claudel, lorsqu'il prétendait que rien de meilleur ne pouvait être imaginé. Je comprends que, lorsqu'on les ressent dans toute leur intensité, on puisse faire des infidélités à cette vie. C'est tellement plus sûr que tout ce que l'on peut éprouver ici-bas. Et c'est comme ça tout le long. C'est d'une grande richesse. Donc aujourd'hui, la fête, je célèbre Jacques Rivière. Je célèbre aussi son épouse, sa femme, la mère de ses deux enfants, Isabelle Rivière. Deux enfants Une fille qui a 18 ans est entrée chez les bénédictines. Un fils qui a 17 ans est entré chez les bénédictins. Tous deux sont restés dans leur monastère. C'est aussi l'amitié que je célèbre aussi, l'amitié de Jacques Rivière pour Alain Fournier, le frère d'Isabelle Rivière. On pourrait dire que c'est aussi la fête aujourd'hui de Saint-Cyrille et Saint-Méthode, les patrons de l'Europe, que Jean-Paul II a choisi comme patron de l'Europe au même titre que Saint-Benoît. J'en vous en parlerai l'an prochain. Ce sont des saints merveilleux. Oh, il y a aussi de bien d'autres saints aujourd'hui qu'il me suffise de mentionner Saint-Denis Martyr à Cire à une époque inconnue, et ainsi qu'un Jean de Triora qui est prêtre et martyr en Chine en 1816. Alors je passe donc à Jacques Rivière, que j'ai dit qu'il était né le 15 juillet 1886 à Bordeaux. J'ai oublié de m'identifier, mon nom est Raymond Beaugrand-Champagne. Alors le père de Jacques Rivière va devenir professeur d'obstétrique à la faculté de médecine, et médecin-chef de la maternité aussi à Bordeaux. Sa mère était une mère, vraiment une excellente mère. Mais pleine d'amour, de sens de son devoir. Elle avait aussi, ce qui est moins généralisé, même à l'époque, une piété lumineuse, une vraie piété chrétienne, pas des artifices et des conventions, là. Mais elle s'est épuisée par le travail, parce qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de travail à la maison. Elle était la nourrice, comme on disait à l'époque, et la seule éducatrice de ses enfants. Et alors, les soins n'ont pas pu lui rendre ses forces, et elle est décédée, alors que Jacques Rivière, l'aîné, venait d'avoir ses 10 ans. Et ce fut terrible pour lui, hein? Il était extraordinairement sensible. Il écrit ses soirs d'enfance sur la terrasse au bord d'un vallon très lent. « J'écoutais près des miens les cors de chasse se répondre. » Parce qu'on faisait la chasse, hein, dans la campagne. Il entendait les cors de chasse. C'est beau en France quand on entend ça, hein? Ça existait à Montréal, à Côte-des-Neiges, quand j'étais jeune. Oui, près du Collège Brébeuf, il y avait de la chasse à cour, là. Il y avait le Hunt Club. Et alors il écrit encore, Jacques Rivière, « Il y avait un grand fauteuil où ma mère se mourait et des tilleuls. La nuit d'été était sourde et pleine. Elle pesait un peu. J'avais bien mal au cœur. Que dire encore, j'étais sage et je souffrais merveilleusement. » Mais quand la révélation de la mort est entrée dans son cœur, qui était déjà farouchement passionné, bien ce fut la fin de toute confiance en la vie. Il a été envahi de cette espèce de désespoir muet qu'ont les enfants parfois, et même les adultes, hein, de cette espèce de goût de néant qui transparaîtrait pendant des années. Derrière tous ces enthousiasmes, toutes ces joies, les plus hauts plaisirs, de cet esprit, il y avait une intelligence au-dessus de la moyenne. Hein? C'était un Jacques Rivière, il est devenu même directeur de la nouvelle revue française, la NRF. Hein? C'était un très, 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 très grand cerveau. Hein? Alors, sa sensibilité, qui était très, très affinée, lui permettait de jouir de cette beauté du monde, hein? Mais ça lui permettait aussi de souffrir de cette espèce de misère incurable qui l'avait attaqué. Le 8 juin 1907, il écrit « Voici la première de ces interminables journées d'été si belles qu'on y succombe. Le rebord de ma fenêtre, et aussitôt l'azur, la plénitude, le gonflement de tout le ciel, et de nouveau, je sens le vieux mal, le coup secret au cœur. Une grande amertume, le sentiment d'une insuffisance, une solitude irréparable. » Alors Jacques Rivière a fait ses études secondaires au lycée de Bordeaux. Ses maîtres ont aimé son intelligence, dont je vous ai parlé, telle à la fois vive, hein, puis profonde. Puis c'était un travailleur, infatigable, consciencieux aussi. On peut dire que seul l'accord parfait dans l'amitié ou dans l'amour pourrait décider à soulever cette espèce de voile de pudeur qui l'enveloppait toute sa vie. C'était un homme discret. J'ai l'impression qu'il était semblable à Robert Ellie, dont je vous ai parlé le 19 janvier, écrivain canadien. Son acuité d'analyse a fait de lui le premier critique de ce demi-siècle achevé. Le premier dans le sens le plus important. Lorsqu'il eut 15 ans, son père s'est remarié. La seconde femme a exigé une rupture avec tout ce qui pouvait rappeler le souvenir de la première. Alors, les anciens domestiques ont été renvoyés. La maison natale de la rue de la Devise et la belle propriété en banlieue, proche de celle des grands-parents, ont été vendus avec tous leurs meubles, imaginez, jusqu'aux jouets des enfants. Alors, les enfants... n'ont pas pu revoir leur famille maternelle, même qu'elle les avait choyés depuis 5 ans, sans la permission qui était difficilement accordée par la nouvelle venue, la nouvelle mère, la nouvelle femme de leur père. Et au désespoir de Jacques Rivière, bien, est venue s'ajouter la révolte. Oui, une révolte. Cachée, mais extrêmement ravageante. C'était une révolte qui est devenue de la haine. Pour cette vie d'égoïsme et de vanité que l'on a, dans laquelle sa femme ou sa belle-mère avait entraîné son père, cette espèce de milieu bien pensant, où on se contente d'une observance religieuse plus ou moins ostentatoire, n'est-ce pas, qui ne recouvrait ni réelle piété ni amour, et où les seuls dieux, car c'était des dieux qu'ils avaient ces gens-là, ça existe encore aujourd'hui, qu'en fait, ces gens-là adorent, mais c'était l'argent et le monde, avec un grand M, là. Tout ce qu'il y a de plus plate. Et Jacques Rivière était passionné de sincérité, lui, il était affamé de tendresse et de consolation. Alors, il a donc rejeté avec dégoût cette contrefaçon du catholicisme qui lui masquait la vraie religion, celle qu'il avait aimée quand sa mère la lui enseignait. Et ce fut, dans ces années de son adolescence, une nuit totale. Il écrit « Tu ne sauras jamais le désespoir qu'il y a en moi ». Il avait écrit ça à Henri-Alain Fournier, le frère de sa future femme, en 1907. Et plus tard, il l'écrit d'ailleurs à sa fiancée, Isabelle, « Je croyais avoir une mission, celle de dire que tout était mal, que rien n'était, et qu'il n'y avait ni bonté, ni joie, ni vérité. » Et bientôt, bien le principal ennemi que rencontre d'ordinaire la foi des adolescents, quand c'est pas la sensualité, là, les adolescents de 18 ans, mais est venu renforcer pour Jacques Rivière son désespoir, son mépris. C'était l'orgueil de son intelligence. C'est ce qui prend les gens les plus brillants à 18 ans. L'orgueil de l'intelligence. On en voit à la télévision parfois, c'est bien épuisant. Ils ont plus 18 ans, mais c'est comme s'ils les avaient. Ils ont 25, 30, 35 ans. De la qualité exceptionnelle donc de cette intelligence, Jacques Rivière allait s'exalter sans mesure. Il écrivait d'ailleurs à Alain Fournier en 1905, « J'ai senti très nettement que ma pensée atteignait toute chose, qu'elle allait jusqu'au-delà de toute connaissance, que rien n'était possible qu'il a pu un jour étonner. Comble d'orgueil, mais quelle joie de puissance. Je vais au-delà de tout par la conscience de la vanité du tout. » Alors, il prépare alors, au lycée Lacanal, l'école normale supérieure, mais il n'y réussira pas, c'est curieux. Hein? C'est là qu'il a noué, dès 1904, avec celui qui s'appelle encore Henri Fournier, et qui devient très connu sous le nom d'Alain Fournier, une amitié si haute et si féconde, une des plus belles parmi les rares exemples que le monde a connus. Une amitié absolument fantastique, hein? Car, vous savez, Isabelle Rivière a publié leur correspondance. Correspondance de Jacques Rivière et d'Alain Fournier. 4 volumes qui s'étendent que... C'est en 1926-1927. C'est incroyable. 4 volumes. Alors donc, c'est là qu'il s'abandonne avec une véritable volupté à ce qu'il appelle lui-même le jeu de son esprit. Sur n'importe quelle idée, je peux fonder ce que je veux, dit-il. Une fierté, un orgueil terrible. Par conséquent, aucun système, aucune doctrine ne contient, dit-il, la vérité. Il n'y a que des vérités fragmentaires, dit-il, des doctrines qui passent, comme les cerveaux qui les ont édifiées. L'intelligence est donc incapable, mais oui, incapable, prétend-il, d'éclairer le monde et la vie. Elle ne peut nous servir qu'à amasser des connaissances pour dominer ce monde ignorant. Il dit, je voulais tout savoir. Il écrit ça à sa fiancée. Je pensais que rien n'était plus beau que de tout savoir, de tout posséder, d'être maître de toutes les sources et de connaître tout ce qu'on appelle des vérités. Je pensais que je serais le plus puissant esprit de mon temps, et que rien ne m'échapperait. Mais alors, quelle sorte de nourriture pourrait lui apporter le savoir, vidé de toute âme, hein? que l'on dispense dans les universités, en particulier à la Sorbonne, à l'époque était une Sorbonne, l'université de la Sorbonne à Paris, très anticléricale. Alors il se tourne vers les arts. Il a le goût de la beauté, et en compagnie de son ami, c'est une chasse effrénée qu'ils vont mener, à la poursuite de tout ce que la poésie, la peinture, la musique peuvent offrir, de jouissance. Mais ce qu'obscurément, ils n'ont cessé de réclamer, en vain, à toutes les œuvres, à tous les êtres, bien c'est la justification du monde, le sens de la vie et de la mort. C'est la vérité, au fond, qu'ils cherchent. Car sous cette croyance au néant, si désespérément affirmée par Jacques Rivière, mais il subsiste toujours au fond de son cœur le sentiment lancinant, là, d'une réalité à découvrir, d'une explication à déchiffrer, d'une présence à rejoindre. Il écrit une inquiétude terrible, qui veille en moi et me soulève sans cesse m'empêche de me satisfaire. Une inquiétude qui me soulève en transport de volupté, en transport de désespoir, une inquiétude infatigable. J'ai cherché dans les livres. Certains m'ont ravi. Je les écris. Mais aussitôt, chaque fois, mon inquiétude m'avertissait de ne pas m'arrêter, de ne pas me satisfaire, et de souffrir et de chercher encore. Alors c'est l'époque où il lit les nourritures terrestres de Gide, André Gide. Et il a cru que Gide allait vraiment lui enseigner la ferveur. Mais il s'est trompé. Hein? Trompé sur le sens de ces nourritures terrestres, où Gide volontairement a camouflé sur une sorte de célébration de la nature, doublée d'une apologie du dépouillement. Ce qui n'était qu'un appel à l'amour féroce de lui-même, au fond. Hein? Car les nourritures terrestres, c'est quoi? C'est un plaidoyer, non encore avoué, pour la luxure. Luxure qui devait dominer plus tard, hein, avec un cynisme triomphant, toute l'œuvre et la vie de Gide. Et Jacques, tout en s'enchantant de ce livre menteur, n'est pas sans voir qu'il ne pourra pas y trouver le contentement de la fin de son âme. Son âme a faim d'autre chose. Son ami Alain Fournier lui écrit « Ce n'est que de la sensualité ». Et Jacques Rivière lui répond, en parlant toujours des nourritures terrestres de Gide, « Ce qu'il y a de fatigant en effet, c'est que ce n'est que cela ». Alors il explique cependant pourquoi il aime Gide quand même. Et plus tard, quand j'aurai épuisé l'inépuisable merveille de la nature, je voudrais, de tout mon désir concentré, au-dessus de toute chose particulière, posséder Dieu en vérité. Alors Dieu, voilà le nom de ce désir sans visage, là, qui l'exalte et le torture. Jacques Rivière est torturé par ça. Il écrit « Oh Dieu, je me suis accroché à toi de toute ma force. Mais où prendre ce Dieu indispensable, puisqu'il semble avoir déserté le monde, c'est comme aujourd'hui, où trouver Dieu? Le monde autour de nous semble être sans Dieu. Et c'était comme ça aussi à son époque, il y a près de 100 ans. Or, tandis que montait dans leur ciel cette étoile de Gide, dans le monde de la littérature, un astre immense, et on attachait beaucoup d'importance à André Gide, eh bien, il y avait un autre astre, beaucoup plus puissant selon eux, qui se levait. Et c'était Paul Claudel. Ils se sont écrits l'un à l'autre. Rien dans Shakespeare ou ailleurs n'est évocateur à ce point, au point que l'œuvre de Claudel. Et l'autre disait, Claudel est le plus grand esprit qui ait jamais été. Paul Claudel, vous savez, est mort le 24 février. Bon, c'est très bientôt, c'est l'anniversaire. 1955. Hein? À cette époque, Jacques Rivière a 20 ans. Et c'était à l'époque où Jacques et Reich Samaritain vont se convertir. Hein? Ils reçoivent le baptême en 1906. Paul Claudel, lui, s'est marié cette année-là. Il avait 38 ans. Faut dire qu'il s'est converti, bien, en 1886, le jour de Noël, à 18 ans, Paul Claudel. Donc, en 1906, c'est l'année de la découverte. La découverte de Dieu, la correspondance entre Jacques et Alain Fournier nous révèle l'ébranlement profond que la découverte en même temps de Paul Claudel a porté dans leur vie, car ils sont séparés. Hein. Jacques avait manqué l'école normale de 4 rangs seulement. S'est vu avec désespoir attribuer une bourse de licence, non pas à Paris, mais à Bordeaux. Pour lui, Paris, c'était le cœur du monde. Alors, il y fera en même temps son service militaire. Et puis, cet éloignement cruel nous vaut le flot de lettres admirables. Ces deux esprits différents, mais merveilleusement complémentaires, c'est vraiment la fête aujourd'hui de l'amour et de l'amitié. Et ces deux cœurs purs, brûlants, deux âmes exceptionnelles de jeunes gens, de jeunes hommes, que rien ne saurait rassasier, sinon la perfection, sinon l'infini. Alors Jacques Rivière, avec ce besoin dévorant de comprendre, qui sera toujours le premier mouvement de son admiration, se lance dans l'étude enthousiaste et méthodique de l'œuvre, déjà considérable, de Paul Claudel. Et Alain Fournier, lui, se laisse simplement envahir par la puissante poésie, le cri de l'âme, comme il écrit, le cri du génie qui a touché Dieu, quand il parle de Claudel. Alors, il entrevoit d'ailleurs le premier, que, comme il écrit, que Claudel essaie, avec tout son singulier génie, de reconstruire le monde selon la version traditionnelle. Puis, alors les deux amis apprennent que Paul Claudel est catholique, ce dont Jacques Rivière est d'abord déconcerté. Mais son étude, évidemment, assez rapidement, ça le confirme. Alors, pour se rassurer, il se persuade que le catholicisme de Claudel est la construction d'un poète, qui a transformé tout le christianisme en symboles admirables, écrit-il, dont jamais apôtre ni théologien n'eut la moindre idée. C'est ce qu'il écrit à Alain Fournier. Il se trompe un peu, hein. Et il se retourne vers Gide. Mais c'est pour s'en trouver amené à Claudel. Il écrit le seul remède que Gide trouve au rejet du bonheur. C'est encore la recherche du bonheur sous sa forme non plus terne de confort mais de volupté. Et c'est là qu'il se rend compte que si Gide dit « j'ai passionnément cherché », il se rend compte que Claudel lui répond « j'ai trouvé ». Alors il se sent de plus en plus porté à suivre Claudel. Mais comment Jacques Rivière et Alain Fournier admettraient-ils que ce que Claudel leur fait entrevoir de si merveilleux, puisse se cacher sous le masque encrassé de routine puis d'indifférence que présente le culte catholique. Jacques Rivière écrit à cette époque, et ça ressemble donc à notre temps, il dit cette messe de ce matin, affreusement sabotée, sans grandeur, sans désir, m'a dégoûté. Tout était laid, et je pensais si bien que personne n'y comprenait rien. Mais voilà, dès que je me dis « je ne veux pas du christianisme », une autre voix m'interroge au fond de mon cœur. « Que veux-tu? Que feras-tu? Qui me donnera le sens? Qui va m'initier? Qui me donnera la paix? Je voudrais tant comprendre, car je voudrais tant aimer. » Et alors, brusquement, il se décide à la grande chose. Il écrit à Claudel « depuis plus d'un an, « je vis par vous et en vous. Mon soutien, ma foi, ma perpétuelle préoccupation, c'est vous qui l'êtes. La réponse, mon jeune aîné, l'autre a 38 ans, n'est-ce pas? Ô vous, en qui je me suis confié, la certitude, la réponse, je la veux. Je sais que Dieu vous assiste et que vous vivez en Dieu. Montrez-le-moi. Faites-le-moi goûter. Faites-moi sentir son poids sur mon cœur. » Mais il avoue que le plus horrible de son mal, ce sursaut, cette révolte, ce désir, cette inquiétude, ce mécontentement, il me déchire, mais je les adore. Et pourtant, il écrit « guérissez-moi, mon frère ». Et sans attendre la réponse, qui doit être longue à venir, parce que Claudel, à ce moment-là, est à Tianjin, en Chine, il est parti en 1906, après son mariage. Il était consul là-bas pour la France, alors et il réécrit pour dire qu'il ne croit qu'à la réalité du néant. Jacques Rivière dit qu'il ne croit qu'à la réalité du néant, qu'il a menti en demandant à Claudel la réponse devant laquelle il se pressent plein d'ironie. Puis il finit par implorer la force de briser tout cela et ce départ que Gide n'a pu me décider à tenter vers les choses. Décidez-moi vers Dieu, conduisez-moi vers Dieu. Et Claudel répond avec cette simplicité, cette force tranquille, qui n'est pas du tout la brutalité, l'orgueil puis le désir vaniteux qu'on prétend qu'il avait. Et Jacques Rivière, aussi, d'abord, dans un tumulte affreux, comme il dit, repousse avec horreur ce Dieu qui lui est soudain montré si proche. Puis il se met à discuter, mais pourquoi la vérité, l'unique vérité, pourquoi celle-là et pas les autres, pourquoi Dieu ainsi et non ainsi, etc. Alors il s'écrie, « Je crois de tout mon cœur que vous pouvez me guérir, je vous supplie, je vous implore, ne m'abandonnez pas. » Alors, au long des mois, ce débat se poursuit. Jacques qualifie tout ça de bien puéril. Mais finalement, il va à la messe. Il s'est ému à l'Évangile, il va relire la Bible, il reconnaît que Claudel est d'accord avec l'Église dans la compréhension, dit-il, du dogme catholique. Et cette même lettre, où il se préfère à Dieu, se termine par l'annonce que paraîtra peut-être bientôt l'étude sur Paul Claudel, poète chrétien. Il va publier ça. Il a trouvé le moyen de l'achever. Et nous verrons tout à l'heure où tout ça va le conduire petit à petit, le conduire vers un état d'amour pour Dieu extraordinaire. Et lors, nous y sommes rendus en 1907 dans l'échange de correspondance entre Jacques Rivière, qui écrit un livre sur Claudel, Paul Claudel, poète chrétien, bien qu'il ne partage pas la foi chrétienne. Il lui écrit le 7 décembre 1907, « Je vais vous dire en grand secret quelque chose. Depuis ma dernière lettre, j'ai senti naître une lumière en moi. Oh, ce n'est pas encore la lumière chrétienne. » Mais c'est un espoir encore informe et qui grandit. Oh, il me semble que peut-être la joie existe. Je ne suis plus seul et perdu. Je n'ose rien dire encore, j'attends. Ce qui va m'être révélé, ce qu'il me sera permis de connaître et d'apercevoir à cette clarté. Il est en train de découvrir Dieu. En mai 1907, quelques mois plus tôt, sitôt libéré de son service militaire, Jacques Rivière s'était précipité à Paris. Et alors, Alain Fournier n'était pas le seul à l'attendre là, avec beaucoup de hâte. Sa sœur Isabelle, dès que son frère lui a parlé il y a 3 ans de cet ami incomparable, elle a su, elle, Isabelle, que c'était lui sans le connaître, lui, son futur mari. Et n'a trouvé dès lors nul autre personne d'autre, digne d'être même regardée, croit-elle. Elle était jeune. En octobre, alors rejetant sa bourse à la faculté de Bordeaux, brisant à demi avec son père, il vient s'installer dans un pauvre hôtel à Paris. Jacques Rivière allait préparer l'agrégation de philosophie en donnant des leçons pour vivre. Et lorsqu'il écrit à Claudel « Je ne suis plus seul et perdu », c'est qu'il est fiancé secrètement depuis 5 jours. Isabelle Fournier a 18 ans, il en a 21, et ce fut un amour comme un flot diluvien, d'une violence, d'une profondeur incroyable, et qui a pris dès l'abord sa mesure d'éternité, si on peut dire. Tous les deux trouvaient enfin, en l'autre, la possibilité de ce don total, et de cette possession exclusive, qui était, depuis l'enfance, la fin de tout leur être. Ils trouvent que tout est vide. Alors ils réclament la tendresse, jamais retrouvée, la tendresse qu'il avait de sa mère. Et ils trouvent cette douceur aussi auprès d'Isabelle, qui l'appelle à la fois ma paix et ma tempête. Et tantôt, bouleversement, terreur, nuit, il lui donne des drôles de noms, hein. Tantôt, il l'appelle ma joie, mon transport, ma libération. Une raison de vivre lui est donnée. Il dit, vous êtes ma nouvelle vie, ma nouvelle espérance, ma nourriture et la racine de ma force. Il y a beaucoup qui aimeraient trouver des lettres d'amour comme ça. Il avait 21 ans, elle en avait 18. Alors le temps est fini de ce culte ruineux de la personnalité qu'il éprouvait. Il ne veut plus, dit-il, s'inquiéter que d'aimer aussi fidèlement, aussi affreusement que possible. Il dit « Je suis guéri de ma littérature ». Il écrit ça à Paul Claudel en lui annonçant ses fiançailles officielles depuis février. « Un tas d'insupportables désirs m'ont été enlevés », ajoute-t-il. Il explique combien il se sent sauvé. Il dit « Oui, sauvé de l'enlisement, car ces grands attentifs-là, hein, ces gens-là, ils sont attentifs à eux-mêmes. Ils seraient peut-être incapables à jamais de se porter vers Dieu. Si quelque puissant amour humain parfois ne leur venait par avance, arracher l'âme. On dirait que ça les ouvre vers Dieu au lieu de les fermer. Alors, l'urgence de la recherche ne se peut plus oublier dans les délices d'une espèce d'analyse personnelle. Car c'est pour l'âme aimée, plus encore que pour soi, qu'il faut trouver le vrai bien. Alors, on cherche le vrai bien par amour pour la personne qu'on aime. Hein? Parce que la soif pour les deux là, se multiplie par celle de l'autre. Et la vie devient réellement sans autre but finalement que Dieu. Et au début de 1908 paraît le Paul Claudel, poète chrétien de Jacques Rivière. Et Claudel écrit à Jacques Rivière, c'est un bonheur profond de se sentir aimé, surtout compris. Surtout compris, car une telle pénétration et un exposé aussi parfait de sa doctrine lui révèle que l'auteur, Jacques Rivière, est beaucoup plus croyant qu'il ne le sait lui-même. Cependant, Jacques Rivière, tout entier plongé dans le travail forcené de cette agrégation de philosophie qui est condition de son mariage, la correspondance se ralentit, mais à Alain Fournier, bouleversé par une visite à Lourdes dont je vous ai parlé lundi et mardi, et qui, de Mirande, où il est officier de réserve, nous a écrit « Chaque soir, depuis un mois, je prie du fond de mon incrédulité et de ma misère. » Et Jacques Rivière lui répond « Je prie tous les matins et tous les soirs en demandant à Dieu la force de l'aimer comme il faut le faire. » Sa foi surgit en lui. Et malgré l'échec stupéfiant de Jacques Rivière à l'agrégation, il se marie le 24 août 1909, qui est complètement imprévoyant, il n'a pas d'argent. Et tous les deux se confient à la seule aide de Dieu et des parents de sa femme. Et en octobre, bien grâce à Paul Claudel, bien Jacques Rivière trouve une situation au collège Stanislas, oui, au collège Stanislas, dont on a une succursale à Montréal, à Outremont. En novembre 1909, c'est enfin la rencontre tant souhaitée, Claudel vient le voir à Paris. Et lui, sa femme et son beau-frère Alain Fournier, tous trois, ils sont violemment secoués par la conviction invincible et sereine de Paul Claudel. Voilà enfin un chrétien, un catholique convaincu devant eux. Et pourtant, devant cette quasi-preuve de l'existence de Dieu, si on peut dire, qu'est Paul Claudel, bien, Jacques Rivière hésite. Il hésite toujours à saisir, à comprendre, à la fois parce que il lui semble que l'explication trop satisfaisante de l'existence de Dieu pour n'être pas suspecte. Hein. Et pour lui, c'est l'idée de Dieu, c'est une idée, c'est tout, qui ne parle qu'à son esprit. Et c'est alors que chez les bénédictines, oui, les bénédictines de la rue Monsieur, dans le 16e arrondissement à Paris, il y a des bénédictins et des bénédictines sur la rue Monsieur. 5 rue Monsieur, je vous donne l'adresse. Alors, la beauté pure là, du culte que des bénédictines rendent à Dieu, il voit ça. Il entend cette voix de l'âme en prière et en extase, qu'est le chant grégorien. Je vous rappelle, vous pouvez en entendre tous les matins de 7h à 9h ici. Eh bien, tout ça, ça lui fait sentir une présence qui est celle de Dieu. Hein. Dieu est quelqu'un de vivant tout à coup pour lui, et, oh, assez haut, assez parfait pour qu'il soit digne et juste. Ces vierges-là, derrière leur grille, elles lui ont consacré leur vie. Elles chantent l'amour de Dieu, alors viendra pour lui et sa femme la merveille promise dès les premiers jours du monde au couple humain. Qu'est-ce que c'est? La naissance d'un enfant. C'est cet événement si prodigieux que tous ceux qui reçoivent ce don inconcevable, s'ils essayaient d'en approfondir le mystère, mais ils devraient ne plus pouvoir douter qu'il n'a pas fallu moins qu'un Dieu pour l'inventer, cet enfant. C'est Dieu qui nous invente, c'est Dieu qui nous crée. Et le 23 août 1911, naît la petite Jacqueline qui deviendra bénédictine plus tard. La veille au soir, restée seule à la clinique, brusquement poussée par une force inconnue, Isabelle avait demandé à se confesser. Elle a mis un enfant au monde. Elle se rend compte qu'elle est l'instrument de Dieu. Alors elle demande de se confesser. Le matin de l'opération, elle avait reçu celui qui seul pouvait la ramener de ces étranges régions de la mort où elle allait être emportée petit à petit si elle n'avait pas réagi. Les régions de la mort intérieure, ce désert lunaire dans lequel on marche sans Dieu. Alors c'est elle la première qui, par un hasard déconcertant, a fait le pas pour lequel son mari Jacques Rivière était certainement beaucoup plus près qu'elle. À travers leurs aventures bien périlleuses, car elle a eu bien des malheurs, pas un instant, va-t-il écrire à Claudel, je n'ai cessé d'avoir une infinie reconnaissance pour Dieu et aussi une infinie confiance en son secours. À la fin de 1911, il devient secrétaire de la Nouvelle Revue Française. C'est pas n'importe quoi, je vous le signale au cas où vous connaîtriez moins ça. La Nouvelle Revue Française, c'était ce qu'il y avait de plus vaste et de plus grand en France à l'époque, peut-être avec la Revue des Deux Mondes. Mais même, je pense, la Nouvelle Revue Française était plus importante. Elle avait été fondée en 1909 par André Gide, par Copeau, oui, le grand homme de théâtre, et quelques amis. Et où il a publié déjà de nombreux articles et essais. Et lorsque paraît De la foi, oui, De la foi, c'était le fruit de toute sa recherche inquiète, mais jamais ralentie malgré sa vie si chargée, si laborieuse, eh bien Paul Claudel lui écrit « Vous avez fait bien du chemin, et la dernière étape ne me paraît plus très longue. » Il a 27 ans, à Noël 1913, il écarte résolument les scrupules qui devaient, toute sa vie, réassaillir son esprit trop consciencieux. Alors Jacques reçoit enfin le corps du Christ. Oui, il reçoit le corps du Christ. C'est ça que les chrétiens catholiques, orthodoxes, certains anglicans et même certains calvinistes croient profondément, que nous recevons le corps ressuscité, vivant, vibrant, plein d'amour du Christ. Il le reçoit dans la même chapelle des Bénédictines où il avait été révélé par le chant grégorien qu'il était un Dieu vivant. Et au début d'août 1914, la guerre éclate alors le 24 août. Après une lutte désespérée, Jacques est fait prisonnier. Alors lui est ménagé, écrit Claudel, dans la souffrance et la captivité, cette longue retraite, ce sévère tête-à-tête avec Dieu, cette directe opération sur l'âme, par la voie de la chirurgie, plus encore que de la médecine, cette période de pression et de suppression, de purgation et de taille, hein, comme on taille des arbustes. Hein. Et alors, vraiment jeté à Dieu, selon sa propre expression, tout entier consenti et perdu, mais Jacques Rivière expérimente avec son esprit, son cœur et son âme. Il expérimente quoi? Ben, il expérimente que Dieu, c'est quelqu'un. Quand on a expérimenté ça, hein, toute notre vie est transformée. Le moindre éveil dans la nuit ou le matin, Dieu, c'est quelqu'un, il est là en nous, nous sommes en lui. Nous sommes inséparables de Dieu qui est tout notre amour et qui nous aime. Et alors il comprend, Jacques Rivière, que le chrétien croit en Dieu. Non pas comme on croit une idée, mais comme on croit une personne que l'on connaît. Et alors, il fait des causeries à ses compagnons dans le camp de concentration où il est, où la prison, le camp de, où il est enfermé comme prisonnier. Alors il a choisi de parler de la foi à ces gens-là. Il va rendre cet étonnant témoignage. « Je dis que j'ai rencontré Dieu en personne », c'est ce qu'il dit aux prisonniers. Ainsi, il apprend ce que c'est que la prière, aussi conversation avec Dieu, écrit-il, intimité, amitié. Ce que c'est que la charité aussi. Dans ce camp de 5000 prisonniers, son dévouement sans recherche, écrira l'un de ses compagnons, se manifestant de 100 manières. Aussi peu ostentatoire, avait fait de lui non un type populaire, mais un grand ami de tous. C'est devenu un ami de tous à cause de la charité qui habitait son cœur. Alors Jacques Rivière apprend la patience et l'humilité de l'esprit. Il y a des vérités hors de moi, plus hautes que moi, qui se passent de moi, qu'il faut conquérir. Alors il apprend que si l'on n'est pas chrétien, on ne peut rien comprendre. Il va jusque-là. Il connaît les délices de l'amour de Dieu. Et après 3 ans de retranchement, de misère et d'humiliation dans la douleur, qui ne le quittera plus, eh bien, cette douleur de la mort d'Alain Fournier, qui est disparu à la guerre le 22 septembre 1914, un mois après qu'il ait été fait prisonnier lui-même, Jacques Rivière, il peut pousser vers le ciel au soir de Pâques un cri de l'amour parfait, du parfait chrétien, en pensant à son grand ami Alain Fournier. « Mon Dieu, je vous remercie pour tant de joie. » C'est la dernière ligne de son livre « À la trace de Dieu », paru chez Gallimard. Les grandes éditions Gallimard. Il écrit « Je n'ai qu'un moyen de reconnaître ce que Dieu a fait pour moi. » C'est de le dire. C'est de m'employer à le faire sentir, à le rendre présent pour tous comme il est devenu présent pour moi. En somme, il ne se gênait pas pour témoigner personnellement de ce qui lui arrivait. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on témoigne. Lui, il ne s'en est pas préoccupé. En juillet 1917, Jacques Rivière, brusquement, est envoyé comme interné français malade en Suisse. Et sa volonté est telle que c'est avec cet instrument brisé, son corps tout écrasé, qu'il va maintenir 8 ans, oui, pendant 8 ans, la prodigieuse activité intellectuelle dans laquelle il se lance aussitôt. Et à Genève, une suite de conférences littéraires triomphales lui ouvre l'audience et l'amitié de toute la Suisse pensante, oui, en Suisse. Il achève son livre « L'Allemand ». Il met au point son programme pour la renaissance de la Nouvelle Revue française dont il sait qu'il va devenir le directeur. Et là, rapatrié en France en juillet 18 et démobilisé en 19, en janvier, il se consacre à cette NRF. La Nouvelle Revue française, dont seul responsable désormais, il va faire de cette revue la première, la plus grande revue littéraire de France, revêtue d'un immense prestige aux yeux même de l'étranger. Hein? Alors, prospecteur des lettres, et comme on dit à l'époque, homme de barre, c'est-à-dire comme capitaine à la barre dans son navire, mais il recrute les jeunes talents qu'il sait découvrir. Il est conférencier aussi par nécessité matérielle, il faut bien qu'il vive en France et hors de la France. Il est critique en tous les arts et même en politique. Il élargit considérablement le champ où pourra se répandre le message dont il est porteur, à savoir que Dieu existe. Alors les ennemis du catholicisme, André Gide en tête évidemment, après la mort de Jacques Rivière, se sont démenés furieusement, hein, pour répandre le bruit que Jacques Rivière avait finalement renié Dieu. Mais les lecteurs de bonne foi, c'est Isabelle Rivière qui nous le confirme, diront qu'ils ont trouvé dans ce que Jacques Rivière a lui-même publié les autres choses que des reniements. Car quand on lit « À la trace de Dieu », si l'auteur a vraiment pu se rendre aveugle à la vérité qu'est Dieu, qu'il avait vu, si indubitable, c'est lui qui le répondra, hein. Jacques Rivière écrit, il suffit d'avoir cru une minute avec l'aide de la grâce, porté sur ses ailes pour devenir l'ennemi délibéré, partial et définitif de tout ce qui vient attaquer la certitude des choses qu'elle nous a montrées. Alors, et ceux-là croiront, le seul témoin qui reste, qui soit resté du Jacques intime après la mort d'Alain Fournier, quand sa femme leur dira, et c'est Isabelle Rivière qui parle, « Jacques n'a jamais cessé d'aimer Dieu, jamais cessé de le prier jusqu'à son dernier jour, jamais cessé à travers les agitations, le travail opiniâtre, les succès générateurs de sollicitations et tentations harcelantes, les difficultés matérielles et le fond de fatigue inguérissable sur lequel il vivait, les devoirs et les joies accrues de sa vie de famille. » Car il a eu un fils en 1920. Il n'a jamais cessé de se tenir tourné vers ce Dieu, toujours demeuré depuis l'Allemagne, le Père et le Sauveur. C'est ce que dit sa femme. Et le 29 décembre 1924, La fièvre typhoïde s'abat sur sa maison. Les deux enfants et sa femme, le 29 décembre 1924, sont frappés. Puis même la bonne. Puis, le matin, Jacques Rivière est atteint de la fièvre typhoïde. Après deux semaines de lutte acharnée, à la fin de janvier, on le croit guéri, tandis que les enfants restent en grand danger. Puis l'assaut reprend féroce. Mais c'est en... C'est inutile. On ne peut pas lutter. Le jeudi 12 février, sa lucidité tout à coup est revenue. Parce qu'il délirait depuis le dimanche. Et Jacques Rivière se confesse. Il reçoit l'extrême onction. Et à peine l'huile sainte a-t-elle touché ses yeux fermés qu'il s'ouvre, tout grand, comme frappé de lumière. Et ce grand chrétien, ce saint, à mon avis, qu'est Jacques Rivière, dont la seule réelle entrave sur le chemin de Dieu a peut-être été de ne jamais se croire assez près, me martèle très fort un grand cri de triomphe et de joie. Il dit « Maintenant, je suis miraculeusement sauvé. » Et le vendredi, bien, il va mourir le samedi, le vendredi, bien, reprenant son souffle, après une défaillance cardiaque, à demi dressé comme vers quelqu'un, il s'écrie « Henri », c'est Alain Fournier, ça, son ami, « Henri, je viens. » Puis, pendant la détente passagère qu'amène une transfusion de sang, eh bien, il écrit plusieurs fois « Les portes sont ouvertes, maintenant je vois la lumière. » Mais à 9 heures du soir, l'agonie commençait. C'était un débat terrible de cette vie si jeune encore, un 38 ans. Il s'est défendu toute la nuit, et au seuil de la mort, il continuait de penser plus à ses bien-aimés qu'à lui-même, et tandis que sa femme le tenait serré dans ses bras, comme si elle espérait contenir l'effroyable tremblement qui l'avait saisi. Eh bien, Jacques Rivière ne cessait de répéter ce mot que ses lèvres tuméfiées pouvaient à peine former. Il disait « Courage ». Courage. Et au lever du jour, le 14 février 1925, cette âme extraordinaire, admirable, que j'ai aimée dès ma jeunesse, une âme sincère et généreuse, rejoignait la lumière divine. Éternel rassasiement de sa faim insatiable de vérité. Quand ma mère est morte, j'ai bien dit qu'elle était entrée dans la lumière de Dieu. Pourquoi pas écrire ça dans nos journaux si on a la foi? Vous avez précipité entre mes frères, afin peut-être que dans mes efforts pour remonter vers vous, je ne revienne pas seul, écrit Jacques Rivière, mais que je vous ramène tous ceux parmi lesquels j'étais pris. Mais savez-vous qu'il en a ramené beaucoup vers Dieu? D'abord, parmi ses amis de la NRF, tous ceux qui cherchaient Dieu sincèrement. Et c'est ainsi que Jacques Copeau, l'un des plus grands hommes de théâtre de ce siècle, grâce à lui, est devenu vraiment catholique. Et Charles Dubos, bon, il faudrait que je vous lise un jour des extraits de son journal, et sa vie admirable à Charles Dubos. Et Gabriel Marcel, aussi ce grand philosophe, c'est grâce à Jacques Rivière. Tant d'autres aussi moins connus, toute une jeunesse intellectuelle aussi, qui de génération en génération, jusqu'à tout récemment, a retrouvé en lui ses problèmes, a retrouvé des réponses lumineuses comme on les retrouve dans « À la trace de Dieu », paru chez Gallimard. Mais ses deux enfants qu'il adorait, mais c'était l'abri de ce monde menteur qu'il n'aimait pas, que bien vite... Leur mère a dû les conduire, car Jacqueline, à 18 ans seulement, comme je vous l'ai dit, est entrée dans un monastère de bénédictines. Et son fils Alain, qu'il avait appelé ainsi à cause d'Alain Fournier, est entré lui à 17 ans, comme je le comprends. Je suis entré, moi, à 18 ans et quelques jours. On a hâte. Il est entré aussi chez les bénédictins, tous deux... ayant su que c'était l'œuvre durement commencée par leur père et leur oncle, qu'ils achevaient ainsi tous les propos de leur père et de leur oncle. Comme dit Jacques Rivière, « Mon Dieu, je vous remercie pour tant de joie. » Il écrit aussi, « Mon Dieu, il n'y a de vérité, il n'y a de joie qu'en vous. » Ou plutôt, il y a d'autres joies, mais il n'y a que celle que vous donnez qui soit parfaite. Et c'est pour ça que je veux replonger toutes les autres dans celle-là, et que je veux la donner à tous ceux que j'aime, mais que je ne veux les aimer qu'en vous, afin qu'eux aussi soient submergés par votre présence. On peut trouver de très belles prières de Jacques Rivière dans un petit livre vert publié par les bénédictins de la Pierre qui vit en 1958, « Courte prière pour le chrétien dans le siècle », paru chez Desclés de Brouwer. Je ne crois pas que ce soit en vente dans les librairies, mais vous qui avez des librairies religieuses, allez chercher ce petit livre vert « Courte prière pour le chrétien dans le siècle ». Ça m'accompagne depuis bien longtemps, et c'est plein de richesses.